France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques. Le feuilleton va-t-il enfin se terminer ? Pour faire passer le budget, vendredi, Sébastien Lecornu a donc annoncé beaucoup de mesures, une sérieuse dose de sucré supposée satisfaire à la fois le goût de la droite, du centre et de la gauche. La question que tout le monde a en tête maintenant, c'est le salé. Qui va payer ? Et puis, ces concessions sont-elles vraiment les dernières ? Et sont-elles de nature à éviter à ce gouvernement la censure ? Sautera, sautera pas, ça n'est pas la seule bataille qui mobilise notre invité. La campagne pour la mairie de Paris commence à accélérer. 2026 sera-t-elle l'année de l'alternance dans la capitale après 25 ans de gauche ? Beaucoup de questions donc pour la ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris ce midi. Rachida Dati est avec nous en direct sur France Inter, France Info, le canal 16 de la télé. C'est une émission en partenariat avec le journal Le Monde et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue, Rachida Dati.
Bonjour, Alexandra Ben Saïd.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interviewer, je salue Brigitte Boucher de France Télévisions. Bonjour, Brigitte.
Bonjour, Alexandra.
Avec vous tout à l'heure, on fera le portrait de Rachida Dati.
Et oui, femme de caractère, à la personnalité affirmée, elle sait sortir les griffes et même se défendre et même attaquer. La politique est-elle un sport de combat où tous les coups sont permis ? Nous lui posons la question.
Et vous aurez le droit de répondre, bien sûr, Rachida Dati. Françoise Fressos du journal Le Monde est avec nous en plateau. Hello Françoise.
Bonjour à toutes et tous et j'en profite pour vous souhaiter la bonne année. Alors la question de 2027, ce sera pour moi, l'alliance entre la droite et l'extrême droite est-elle devenue inéluctable ? Nicolas Sarkozy, que vous continuez à soutenir, vous êtes une de ses fidèles, a amorcé un rapprochement avec Jordan Bardella, alors êtes-vous sur la même ligne ? Faut-il vraiment cette alliance-là pour essayer de remporter l'élection de 2027 ?
France 2027, c'est une séquence vers 12h50. On se projettera sur cette question, l'union des droites, au moment de la présidentielle. Mais d'abord, Rachida Dati, 5 minutes d'actualité entre quatre yeux pour le budget. Après 3 mois de discussion, on est donc peut-être, d'une façon ou d'une autre, au bout du chemin. Vendredi, Sébastien Lecornu a mis sur la table de nouvelles concessions. En votre fort intérieur, est-ce que vous croyez que ce gouvernement va éviter la censure ?
J'ai bien aimé votre métaphore sucré-salé.
Alors, on va en parler du salé, si vous voulez bien.
Oui. Alors, c'est vrai que la France a besoin d'un budget. Et c'est une réalité. C'est une réalité économique, sociale. C'est une réalité politique dont on a besoin. Et donc, à un moment donné, il y a un terme qui va s'imposer à tous. Alors, c'est vrai que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a recherché par tous les moyens un compromis avec l'ensemble des forces politiques présentes à l'Assemblée nationale. Et donc, cette réalité politique, elle correspond à la réalité qui est à l'Assemblée nationale, qui est très fracturée, très divisée. Il n'y a pas de majorité. Et donc, aujourd'hui, il faut bien soit trouver un compromis, soit effectivement, s'il y a une mesure ou de 49.3 ou d'ordonnance, de trouver aussi un compromis d'arrêter ces stop and go.
Mais vous croyez que là, ce qui est sur la table, c'est possible d'éviter la censure ? Vous croyez que là, on touche au bout ?
Moi, je pense en responsabilité que c'est possible. Et c'est pas la censure. Le sujet, l'enjeu, c'est pas que le gouvernement tombe. C'est de donner de la stabilité, de la visibilité pour ce pays. D'ailleurs, les chefs d'entreprise, mais même les Français, franchement, ils déplorent aussi le spectacle que nous donnons tous.
Quand vous entendez Olivier Faure, il était hier soir l'invité de TF1, le premier secrétaire du PS, qui dit qu'il met encore deux conditions à cette non-censure, puisqu'il y a beaucoup de choses entre les mains des socialistes. Il dit la première condition, c'est pas de flou sur la copie budgétaire. Et la seconde, le financement de toutes ces victoires obtenues ne doit pas se faire sur le dos des Français. Quand vous entendez ça, est-ce que vous dites encore de la surenchère ?
D'abord, vous avez raison, la surenchère, c'est pas de la responsabilité.
C'est plutôt une question que je vous adresse. Est-ce que vous le ressentez comme de la surenchère ?
Non, mais les Français ont ce sentiment. D'ailleurs, on le voit dans les études d'opinion. Ils ont le sentiment que finalement, même quand on gagne un mètre, ben, faut en rajouter un. Puis, donc, on a l'impression que c'est interminable. Le compromis, il concerne toutes les forces politiques. C'est pas que Olivier Faure. Ma famille politique a fait aussi des concessions. Ils ont abouti à un compromis. D'abord, la première, qu'il n'y ait pas d'augmentation l'augmentation de la fiscalité, notamment sur les ménages, et les classes moyennes et les classes populaires. Ça, c'est important aussi de pouvoir le rappeler, qu'il y ait une relance de la politique du logement. Mon collègue Vincent Jeanbrun est en attente forte pour pouvoir relancer cette politique de logement, qui est une attente très forte aussi de nos compatriotes.
Donc vous dites qu'à la droite, en tout cas, la droite ne doit pas censurer.
C'est non, ça mais la droite, elle est responsable. Laurent Wauquiez, Michel Tabarot, l'ensemble des parlementaires sont en responsabilité quand ils discutent avec Sébastien Lecornu. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que la France a besoin aussi d'avancer, mais il faut aussi qu'on donne une visibilité, une vision aussi pour les Français et tous les acteurs économiques.
Alors, vous parliez des entreprises, justement, des acteurs économiques. Tout le monde se demande qui va payer. Parce que là, il n'y a eu donc aucune augmentation d'impôts sur les ménages, 2 milliards pour la prime d'activité, la généralisation du repas à 1 euro pour la jeunesse. Pas de rabot sur les allègements de charges, mais ça fait plusieurs milliards d'euros supplémentaires, Rachida Dati. Or, le chef du gouvernement, dans l'équation, il dit non, mais le déficit restera toujours à 5%.
Parce qu'on a d'abord un pays qui est endetté, il n'est plus autonome, il n'a plus de souveraineté. C'est-à-dire qu'il dépend des autres. Et donc, nous, la force de notre pays, c'est d'être indépendant. Et donc, de réduire, plus vous réduisez les déficits, plus vous êtes indépendant et vous êtes en souveraineté.
Mais ça, personne ne vous contredira.
Oui, bien sûr.
Mais c'est pour la question, c'est vraiment, est-ce que les entreprises vont payer? Est-ce que les collectivités locales...
Oui, mais c'est tout le sujet de la discussion finale, vous le savez bien. Et donc, alors moi, à ma petite échelle, par exemple pour le ministère de la Culture, en responsabilité, j'ai concédé à une baisse pour contribuer à la réduction du déficit. Mais moi, j'ai des priorités.
200 millions, c'est ça, dans la première...
Pour l'instant, oui. Vous savez, la copie initiale 2025, on était parti de 500 millions, et je n'ai pas eu de baisse de mon budget ministère de la Culture. On a baissé sur les réserves de précaution, qui n'ont pas touché au cœur de ce ministère de la Culture, dont le budget, quand même, je le rappelle, a augmenté de 30% depuis 2017. Moi, j'ai des priorités, l'éducation artistique et culturelle. Donc, pas culture, non. Sur la création, telle que la copie peut atterrir, il y a plus d'1,1 milliard sur la création artistique, sur le fonds de sûreté, très nécessaire pour sécuriser le patrimoine et en particulier les musées. Ça sera sauvegardé. Et je le dis, j'ai sauvé d'ailleurs deux exceptions culturelles françaises qui sont copiées dans le monde entier. Le financement du cinéma, important. Je suis aux côtés les acteurs du cinéma.
Mais là, vous allez devoir faire des efforts supplémentaires.
Et les acteurs de la musique.
Vous n'êtes pas le ministère préservé.
Non. CNC, CNM, sauver, sauvegarder, pérenniser. Et j'ai reçu l'ensemble des responsables et des présidents de l'audiovisuel, plus globalement, pas que public, qui connaissent des difficultés. Je me suis engagée à trouver des solutions. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a des priorités sur lesquelles, évidemment, on trouve des compromis. Et c'est le cas. Et il faut continuer. Et donc, pour le reste, pour les autres secteurs ministériels,
il faudra en faire de même. Pas de baisse de budget pour l'audiovisuel public, c'est ça que j'ai compris ?
Non, mais sur l'audiovisuel public... On va, si vous souhaitez qu'on en parle maintenant, on peut en parler.
Non, on en parlera plus tard, mais c'était juste une question sur le budget.
Ben, effectivement, l'audiovisuel public est en difficulté. C'est vrai, c'est une difficulté. Je rappelle quand même, juste pour mémoire, lorsque je porte la réforme de l'audiovisuel public, qui est demandée, ça fait des années et des années, non, par l'ensemble des rapports parlementaires, y compris par un rapport, dernier rapport de la Cour des comptes. Il faut que l'audiovisuel public rassemble ses forces, se réorganise. J'ai sauvé, c'est pas anodin.
Non, mais sur le budget 26.
Attendez, vous savez qu'au 1er janvier 25, il ne devait plus y avoir de budget sanctuarisé pour l'audiovisuel public. Je l'ai sanctuarisé. J'ai sanctuarisé ce budget pour l'audiovisuel public, grâce aux sénateurs Vial et Lafont, qui ont permis que je puisse évidemment sanctuariser le mode de financement.
Une question sur le CNC, parce que vous dites je protège le CNC. Jeudi, à l'Assemblée nationale, il s'est passé quelque chose, je voudrais bien votre regard là-dessus. Des députés Ensemble pour la République et Rassemblement National ont voté une baisse de la taxe sur les services à la télévision, et ça va amputer d'une trentaine de millions le budget du Centre National du Cinéma. Ça fait autant de moins pour la création audiovisuelle, vous allez pouvoir répondre. Du coup, les réalisateurs, les producteurs, les cinéastes sont en train de sonner l'alarme. Est-ce que vous allez laisser faire ça ?
Je les ai reçus. Et là, c'est les solutions, parce que l'audiovisuel est aussi en difficulté. Donc, il faut trouver des solutions. Et je pense que j'ai trouvé un compromis. Donc, voilà.
Donc, un compromis pour que ça baisse ou pour que ça baisse pas ou
pour que chacun puisse, évidemment, être préservé. Donc j'ai trouvé une solution et je me suis engagée auprès de chacun.
Donc, cet amendement n'est pas dans la copie finale. Pardonnez-moi, c'est très précis.
Vous savez très bien que ça peut se réajuster ou se redéployer. Tout n'est pas figé. Et donc, nous sommes encore en discussion.
Allez, une dernière question et puis on va ouvrir la discussion. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de bonne solution. 49.3 ordonnance. Si Sébastien Lecornu vous appelle, il l'a peut-être fait, et qu'il vous dit qu'en pensez-vous ? Vous dites quoi ? Vous avez une préférence ?
Non, moi, je veux dire chacun à sa place. Voilà. La responsabilité, il y a une responsabilité de l'Assemblée nationale, du Parlement et du gouvernement. Ça, c'est le Premier ministre qui prendra la décision.
Vous ne voulez pas donner une option ? Ce n'est vraiment pas la même chose. Hein. Les ordonnances, on passe par-dessus le Parlement. Le 49-3...
Le 49-3...
On avait dit qu'on ne s'en servirait pas.
Voilà. Et puis, personne n'en voulait. Maintenant, la gauche appelle au 49-3. Personne n'en voulait. Au sein du Parti Socialiste, vous savez très bien qu'ils sont divisés. Vous avez reçu François Hollande qui souhaite le 49-3. Olivier Faure n'y est pas forcément favorable. C'est-à-dire que dans chaque groupe politique, à l'exception d'une autre...
Bon, vous me parlez des autres, vous ne me parlez pas de vous. Hein.
Mais non, mais... Attendez, moi, on a mis une copie. Il faut trouver maintenant l'outil institutionnel ou constitutionnel pour pouvoir faire passer ce budget. La France a besoin d'un budget.
On ouvre la discussion. Une question de Brigitte Boucher.
Rachida Dati, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un budget socialiste, que 69 députés font la loi dans ce pays ?
Non, c'est une Assemblée nationale divisée. Mais vous ne voyez que peut-être que les socialistes. Mais
les annonces étaient très sociales, celles de Sébastien Lecornu. Bah, et ça devrait être financé sur le dos des entreprises.
Par exemple,
avec une
surtaxe sur
les sociétés.
Sur l'absence d'augmentation des impôts, c'est plutôt nous qui avons œuvré pour cela. Sur la relance du logement, c'est plutôt nous. Et donc, chacun a contribué à ce qu'on a trouvé un compromis en responsabilité, je le dis encore. C'est vrai que c'est ce que vous disiez. Il ne faut pas non plus que un peu trop de sucré, un peu trop de salé, le sucré salé devienne une potion amère pour les Français. Voilà, c'est là qu'il faut effectivement veiller à cela.
On dit pas de hausse d'impôts, mais il y en aura quand même. Est-ce que vous, à titre personnel, vous préférez une hausse sur les grandes entreprises ou alors sur les grands patrimoines des particuliers, notamment parce qu'il faut réduire un peu la lutte contre la fraude fiscale ?
Alors, d'abord, c'est pas forcément lié. Vous pouvez accepter aussi qu'il y ait une hausse sur les grands patrimoines. Je crois que les plus hauts revenus et ce qu'on appelle... Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire ultra-riches, mais les très riches ou les gens qui, effectivement, ont beaucoup de moyens ont contribué. Je voyais, par exemple, des chefs d'entreprise ou, à titre individuel, les grandes entreprises ont contribué à hauteur de 500-600 millions pour certaines l'année dernière. On avait dit, effectivement, que ça pouvait être une contribution exceptionnelle, voire transitoire. Tout le monde a concédé, a consenti à cet impôt.
Et vous pensez
donc,
que c'est justifié ?
Moi, je pense que quand le pays est en grave difficulté, il faut que tout le monde y prenne sa part. Et donc, ils ont consenti. Mais il ne faut pas que ça pèse toujours sur les mêmes, parce que vous pouvez aussi tuer l'économie. C'est-à-dire que je ne veux pas reprendre trop d'impôts tue l'impôt, mais trop d'impôts tue aussi une économie, tue aussi une croissance. Et nous sommes déjà très fragiles de ce point de vue-là, donc il ne faut pas non plus tuer ce qui génère la richesse dans notre pays.
Et tout le débat, c'est sur la surtaxe sur les grandes entreprises. 6 milliards, 8 milliards, est-ce que là, vous avez... c'est le débat, c'est le fond du sujet ?
Le fond du sujet, c'est comment chacun peut contribuer dans une certaine justice. Parce que quand on parle de justice sociale ou de justice fiscale, on pense toujours à qu'une seule catégorie. La justice fiscale, elle est aussi pour nos entreprises qui créent de la richesse, qui permettent aussi à ce que nous soyons les premiers au monde dans certains domaines, la technologie, la culture, nous sommes les premiers au monde. Et donc ça, ce sont des entreprises qui permettent cela. Donc attention de ne pas les charger et qu'à la fin, on tue aussi notre économie, notre croissance, et qu'on tue aussi, vous avez vu, le chômage repart aussi un peu. Donc à force de charger la barque, on peut repartir sur un chômage de masse qu'on avait oublié depuis un certain nombre d'années.
Rachida Dati, votre grand combat actuellement, c'est quand même essayer de conquérir la mairie de Paris. Donc la question, c'est est-ce que vous allez rester ministre ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'au moment où la campagne officielle va s'ouvrir, début mars, vous démissionnerez du gouvernement ou pas ?
Madame Fressoz, vous êtes, je ne vais pas dire une observatrice, mais vous analysez, on se connaît d'ailleurs depuis très longtemps, vous voyez la vie politique depuis très longtemps. Jusqu'à un temps récent, il n'était pas incompatible qu'un ministre fasse campagne et que, dans le cadre d'élections, moi j'ai été élue maire du 7e arrondissement en étant garde des Sceaux. Non mais juste, je termine. Aujourd'hui, je respecte toutes les règles déontologiques, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais bien sûr que je quitterai le gouvernement.
Vous coûterez au gouvernement.
À quel moment ?
Et quand ?
À quelle date ?
Écoutez, je ne vais pas vous dire ici quand, mais je...
Non, mais au moment de la campagne officielle, c'est le 2 mars.
Vous pourriez, Rachida ? Non, mais vous pourriez. C'est vrai, la campagne officielle, c'est le 2 mars. Le premier tour, c'est le 15.
On a une petite actualité budgétaire. Et après, parce qu'il y a certains acteurs culturels qui souhaiteraient que je défende leur budget jusqu'au bout, mais peut-être tout ça, je suis évidemment...
Il y a le budget, mais il y a aussi le Louvre. C'est un dossier important pour vous en tant que ministre de la Culture. Il n'y a que des coûts à prendre, finalement. Vous avez peut-être intérêt à quitter le gouvernement.
Vous savez, les coûts à prendre, c'est c'est pas ça qui me fait peur dans la vie. Hein. Donc, c'est d'affronter les choses. La vie politique, c'est comme la vie. Vous avez des aléas, vous avez des difficultés. Ce vol spectaculaire du mois d'octobre a percuté à l'ensemble des agents, la culture française et les Français. Tout le monde a été très sidéré par ce cambriolage. J'ai pris des mesures dès lors où il y a eu ce vol spectaculaire. Il ne fallait pas non plus que je déstabilise toute l'organisation. Nous étions aussi à la veille des fêtes. Nous avons terminé avec une fréquentation historique du musée du Louvre. C'est le musée le plus visité au monde. Donc je ne voulais pas tout désorganiser à ce moment-là. Je discutais avec les organisations syndicales. Leurs revendications sont légitimes. J'ai commencé à y répondre. On avance et des décisions majeures... On a géré la crise et des décisions majeures vont être prises incessamment sous peu.
Juste pour être bien sûr de vous avoir comprise sur votre participation au gouvernement, vous dites je partirai, vous n'annoncez pas de date. Une question, vous en avez parlé avec Emmanuel Macron avant qu'on passe au Louvre. On va parler du Louvre, ne vous inquiétez pas.
Je suis engagée en politique depuis longtemps, je sais ce que j'ai à faire et je sais aussi ce que je dois faire. Voilà.
Bon, Rachida Dati, vous parliez du Louvre. Depuis un mois, il y a un mouvement social. Vous dites que leurs revendications aux salariés du Louvre sont légitimes. Le musée n'a pas ouvert depuis le 15 décembre, il n'a pas ouvert lundi 12 janvier. Est-ce que demain, il sera ouvert ?
Il y a eu des grèves un peu perlées, mais le musée n'a pas fermé totalement. Il y a des parties qui ont fermé.
Oui, il y a des parties qui ont fermé.
Oui. Mais attendez, on a passé le plus gros, on a passé évidemment la crise. Moi, je suis en discussion avec les organisations syndicales. On avance sur certaines revendications, mais il y aura des décisions beaucoup plus conséquentes qui vont être prises.
Alors, allez-y, qu'est-ce que c'est les décisions conséquentes? Vous avez dit, il y a un problème de gouvernance. Je rappelle que
la gouvernance va être revue.
Et la présidence.
C'est-à-dire, on change de direction. Mais
la gouvernance, c'est l'organisation. C'est pas qu'une question de personne, c'est aussi une question de projet et de projet d'établissement. Et donc pendant très longtemps, ces grands établissements, quand on nommait quelqu'un, il y avait une convention d'objectifs, mais à la limite on était dans la tacite reconduction sans regarder finalement les détails. Ça nous, quand vous avez comme ça une crise ou un moment important, ça nous oblige à revoir aussi les modalités d'organisation, où sont les préoccupations. Pendant trop longtemps,
vous gardez votre confiance à Laurence Descartes ou pas ?
Pendant très longtemps, ces grands musées culturels, c'est les établissements culturels, la sécurité n'était pas une priorité. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer sécuriser un musée comme une banque, ou j'allais dire un établissement pénitentiaire.
Donc maintenant, c'est la priorité.
C'est une priorité.
Alors, et
c'est
pour ça que dans... Vous conservez votre
et pas tout le monde en même temps. Pas tout le monde
à Laurence
Descartes
ou pas?
Pas tout le monde en même temps. C'est pour ça que là, j'ai revu l'organisation, la gouvernance. On va revoir. Et effectivement, il y aura un sujet de personne.
Il y a un sujet de personne. Donc vous n'avez plus confiance en Laurence Descartes?
Non, mais...
Il faut être clair.
Est-ce que vous, quand on vous change d'émission, de créneau, est-ce qu'on remet en cause la confiance que la direction
parfois,
a possible. Parfois, ça peut être ressenti comme ça, mais parfois, c'est pas forcément. Moi, je vois, et qui écoute votre radio, il y a plein de créneaux, vous avez changé. D'autres, des créneaux qui étaient plus tôt, sont passés plus tard. Des journalistes.
Pas sûr de comprendre. Elle est à la tête du Louvre. Est-ce qu'elle peut rester?
Oui, mais est-ce que c'est un sujet de confiance? Voilà. Est-ce que ça dépasse les personnes? C'est un sujet d'enjeu muséal du plus grand musée. On parle du plus grand musée du monde. Voilà.
Et de la femme à sa tête.
Une question qui préoccupe quand même les Français. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance un jour de retrouver les bijoux ?
La procureure s'est prononcée d'ailleurs, s'est exprimée je crois hier ou avant-hier en disant que oui...
Vous en savez un peu plus ou pas ?
Non, j'ai pas d'informations, mais je sais que l'enquête est très sérieuse, très sérieusement menée, et elle a dit elle-même qu'elle ne désespère pas de retrouver ses bijoux.
Rachida Dati, il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il y a un retard persistant dans le déploiement des moyens dédiés à la protection des œuvres. Et Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, a pointé directement votre mise en cause dans ce problème-là en disant que vous n'aviez pas suffisamment anticipé, mis les moyens justement pour les protéger. Est-ce que vous reconnaissez une forme de responsabilité ?
Madame Filippetti aurait pu aussi s'exprimer sur le vol du musée d'art moderne, qui est un musée municipal, 100 millions d'euros de butin. D'œuvres d'art qui ont disparu de ce musée municipal sans qu'on ne les retrouve jamais.
Ce n'est pas votre responsabilité,
non,
c'est ce que vous
dites. Attendez, mais Mme Filippetti, elle en fait une histoire politique, politicienne. Si Mme Filippetti avait été une bonne ministre de la Culture, elle se serait préoccupée de la sécurité dans les musées qui n'ont jamais été la priorité depuis des années. Je ne mets pas en cause mes prédécesseurs. Les établissements muséaux, les musées, les grands musées, le musée du Louvre, c'est un établissement autonome. On n'est pas dans la gestion, nous ne sommes pas dans la gouvernance, ce sont des établissements autonomes.
Ça n'est pas votre responsabilité, c'est ça.
Non, mais il y a une tutelle mais il y a une autonomie de gestion de l'établissement. Et donc, là, on s'est rendu compte que la sécurité n'a pas été une priorité pour l'ensemble des musées de France. C'est pour ça qu'avec mon collègue, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, nous avons signé une instruction à l'ensemble des préfets pour se mettre en relation avec les DRAC pour, et les élus locaux pour recenser l'ensemble des établissements les plus sensibles ou les établissements qui détiennent des œuvres d'art sensibles pour procéder justement à un schéma de sécurisation.
La commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public, Rachida Dati, doit reprendre ses auditions mardi. Vous-même, vous serez auditionné, je crois, le 5 février. Comment est-ce que vous jugez jusqu'à présent le travail de cette commission et en particulier le travail de son rapporteur, Charles Laloncle ?
Moi, je ne juge pas le travail des parlementaires. C'est une prérogative du Parlement. J'ai été garde des Sceaux et j'ai réformé la Constitution en 2008. Et j'ai permis, évidemment, la possibilité de ces commissions d'enquête, ces missions parlementaires, et de donner plus de pouvoir. La révision de la Constitution que j'ai faite en 2008, j'ai donné plus de pouvoir au Parlement, plus de droits aux citoyens, et on a encadré les pouvoirs du président de la République. Et donc, ces nouveaux droits, ces nouveaux pouvoirs au Parlement national, ils en usent, ce sont leurs prérogatives. Moi, je ne suis pas là-dedans, je vais être auditionnée, je répondrai aux questions qu'on me pose.
Est-ce que c'est bien de live-tweeter pendant, en direct, pendant des autres...
Non, mais c'était un peu ça. Oui, mais moi, là où je vous rejoins,
c'est la forme.
Vous savez, la vie politique, maintenant, on fait des déclarations de guerre par tweet, on insulte les gens par tweet, par les réseaux sociaux. Moi, je considère que l'audiovisuel public, c'est sérieux. Je n'étais pas ministre de la Culture et sur vos antennes, je me bats pour que cet audiovisuel public reste public. Moi, je crois à un État fort. Il faut que l'État reste avec l'audiovisuel public, qui continue à le financer, à le renforcer et à le défendre.
Mais c'est pas moi, le procès de l'audiovisuel public, cette
Pardon
commission ? C'est pas le procès de l'audiovisuel
moi,
public.
Moi, je le conçois pas comme ça. Quand un parlementaire demande des informations aux dirigeants ou à des gens qui participent à l'audiovisuel public, qu'on y réponde. Moi-même, je vais y répondre. Rappelez-vous, il y a eu une commission sur la TNT, j'ai été auditionnée. À cette époque, on m'a demandé des informations, on m'a demandé des documents. Effectivement, je m'y suis.
Mais c'est bien,
j'y ai répondu.
Sur les règles, les nouvelles règles, et justement, cette idée qu'il faut arrêter de live-tweeter pendant les auditions. Vous appréciez, vous avez passé avec ça.
Alors moi,
règles.
Je vais vous dire, si vous me posez la question, moi, à titre personnel, d'ailleurs, les réseaux sociaux, moi, on le fait à titre ministériel ou pour la campagne, c'est pas moi qui m'en occupe. Je suis pas très à l'aise avec ce genre, évidemment...
Je vous demande un jugement de valeur.
Le jugement de valeur, si c'est pour attaquer, dénigrer, caricaturer ou les brefs résumés... Moi, ça me gêne un peu, voilà, mais c'est pas... Mais le cœur du sujet, il est pas là. Vous le savez très bien.
C'était la forme et il y a le fond.
Le sujet n'est pas là.
Sur le fond, Françoise Fressoze.
Vous avez été nommée au gouvernement, notamment pour mener la réforme de l'audiovisuel public. On voit que l'horloge tourne, que les municipales approchent. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'au fond, cette réforme, vous ne la porterez pas et qu'elle ne verra pas le jour ?
Depuis que j'ai été nommée ministre, c'est une réforme qui était dans le programme du président de la République dès 2017. Depuis que j'ai été nommée ministre, j'ai procédé à deux lectures. Ce qui n'était pas quand même évident, il reste une lecture sur cette réforme.
C'est faisable ou pas ?
Moi, je pense que c'est faisable. On va regarder en fonction de l'adoption du budget ou pas, et en fonction du calendrier parlementaire. Moi, je le dis, moi, j'ai pas de... vraiment de dire est-ce qu'il faut... Et c'est moi, je, personnellement, qui l'apporterai. Je dis simplement, il faut faire très attention, vu les échéances qui vont arriver. Attention que l'audiovisuel public ne soit pas un jour dépecé. Il est déjà pas mal, je trouve qu'il est déjà très affaibli. Moi, mon combat...
Et vous pensez que je sois, à quoi attendez, une possible arrivée du Rassemblement
non,
national ?
Que je sois ministre de la Culture ou pas, vous me trouverez toujours à vos côtés pour défendre l'audiovisuel public.
Il est à la
j'en
hauteur
suis,
de vos attentes aujourd'hui, l'audiovisuel public,
j'en suis
public,
le produit. J'ai grandi avec la radio, on en parlait juste avant l'émission, j'adore la radio. Et donc, où la télévision publique, elle a aussi formé une vision culturelle. Comme vous le savez, moi j'ai été élevée dans une famille qui ne savait pas lire, pas écrire, pas de livres, pas de culture. Et donc ça m'a permis, je disais tout à l'heure, j'ai eu une interview sur TV5, on me disait « qu'est-ce que la culture vous a apporté dans votre vie ?» La civilité, j'allais dire presque la civilisation. Ben, l'audiovisuel public contribue à cela. C'est un audiovisuel qui doit s'adresser à tous et au plus grand nombre. Je pense que
la
réforme...
Il est à la hauteur de vos attentes aujourd'hui ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les audiences, quand on voit que l'information, c'est plus sur l'audiovisuel public, on s'informe. Quand on voit comment les réseaux sociaux ont pris le pas sur, sur les canaux d'information.
Là, vous êtes sur la première radio de France. Tout l'audiovisuel public n'a pas... Tout peut être amélioré, mais là, quand même, 80% des audiences de Radio France est
vous
en
avez,
province.
Oui, mais est-ce que vous
France
parlez...
Inter est la première
non, mais
radio
vous,
de France.
Mais que vous la défendiez,
vous savez également.
Non, Madame Bensaïd, non, mais attendez, c'est pas un débat sur l'audiovisuel
Absolument.
Public, on va ouvrir là. Mais moi, vous
je rajoute
très
du
bien,
contexte.
Vous savez très bien, sur la tranche d'âge, elle est plus vieillissante, c'est beaucoup plus pour du CSP+. Moi, je dis pas ça pour vous attaquer, je dis ça plutôt pour que, justement, moi, il y a des Français qui, me dit, qui sont très attachés. J'écoutais sur une émission, sur votre antenne Interception, vous aviez interrogé des gens sur, évidemment, comment ils s'informaient. Et vous aviez interrogé, justement, sur des classes plus populaires. Elles disaient, non, on ne regarde plus la télévision publique et on n'écoute plus la radio. Bon. Et bien, moi, ça me désole.
On est toujours la première radio chez les moins de 35 ans. On a gagné des auditeurs, permettez-moi quand même.
Sur la condition sociale, c'est important que vous ouvriez aussi. Je l'avais dit sur l'antenne. J'avais dit, moi, je me souviens des ouvriers qui écoutaient la radio publique sur un chantier avec leur petit transistor. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit encore le cas.
On fait des podcasts et on a des podcasts pour les enfants sont très appréciés.
Oui, alors, elle ne va peut-être pas vouloir, quand il y a eu la mission avec Laurence Bloch et tout. Vous voyez, alors, si je puis me permettre, comme usagère, moi, je trouve que votre application, que vous avez fait maintenant France Inter, vous avez fait une application globale, je trouve qu'elle n'est pas si accessible que ça pour des gens qui sont... Je
bon, trouve que, ça, voilà, parce que là, c'est,
trouve, voilà,
télé,
c'est l'usager qui parle, l'auditeur. Je trouve que vous devriez faire des circuits plus faciles. Voilà,
allez, on parle des municipales à Paris qui commencent à accélérer. Cet après-midi, Rachida Dati, vous serez à la Mutualité entourée de grandes figures des Républicains, Valérie Pécresse, Agnès Evren et Bruno Retailleau. Alors, j'ai regardé depuis plusieurs jours, Bruno Retailleau n'était pas sur le flyer. Et là, il s'est rajouté dans la nuit de vendredi à samedi. Est-ce que c'est votre invité de dernière minute pour muscler la campagne?
Vous croyez que j'ai besoin de muscles?
Dites-nous. Elle va pas être si facile, cette campagne.
Mais aucune campagne électorale n'est facile, Madame Bensaïd. Vous le savez bien. Vous recevez des invités politiques régulièrement. Non, au départ, ça devait être une galette des rois de la Fédération de Paris. Et puis, on a eu tellement d'inscriptions qu'on a changé peut-être 10 fois de salle. Et puis ensuite, on a demandé effectivement au président du parti s'il souhaitait...
Plutôt que vous êtes un peu bousculé quand même?
Madame Fressoze, vous connaissez mon tempérament haute. Moi, j'ai mis toute mon énergie dans cette campagne. Vous savez, l'enseignement qu'on tire des sondages, mais aussi du terrain...
C'est la première fois
que les Parisiens ont une envie d'alternance. Je pose ça, quand vous regardez sur les blocs, ça fait 25 ans qu'il y a une gauche au pouvoir. Il y a même, pour eux, c'est une respiration démocratique, l'alternance... C'est pas que mauvais. Donc, ça peut aussi faire du bien à une ville comme Paris après 25 ans de gauche. Et c'est la même équipe qui repart, j'allais dire, en pire. Ils sont usés. Regardez.
Sauf que vous êtes divisés. Est-ce que c'est pas la droite la plus bête du monde?
Juste, je voudrais finir des phrases où je réponds à toutes les questions. Donc, je dis simplement qu'aujourd'hui, la gauche, c'est la première fois où, en faisant des fonds de tiroir, je suis presque à égalité avec eux en étant uniquement sur mon nom. Donc je dis simplement qu'aujourd'hui, la gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut sauver ses mandats et son... Quel est le projet commun entre M. Béliard et M. Grégoire sur le logement, sur la police municipale, sur la sécurité, sur la mobilité? Ils n'ont aucun point d'accord. Ça fait 25 ans qu'ils sont en désaccord.
Attendez,
ils se sont alliés à Mme Simonet et Laurent Sorel, qui sont les filles. Donc, ils grattent encore un peu plus. Donc, à un moment donné, ils sont à la recherche du sauvetage du siège, ils ne sont pas à la recherche d'une vision pour Paris. Et donc, moi, je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, vous avez une chance historique de pouvoir changer Paris avec cette alternance. Je suis la seule à pouvoir la porter et l'incarner aujourd'hui. Et je le dis... C'est pas une élection présidentielle. Le vote utile sera dès le premier tour. Parce que, évidemment, toute voix qui partira sur un autre candidat, en tout cas de la droite et du centre, qui évidemment pourrait m'affaiblir, on perdra, évidemment, cette élection. Donc, je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, le vote utile, c'est dès le premier tour. Vous voulez le changement à Paris, après 25 ans de gauche, et je vais vous dire, parce que, par quel miracle, l'équipe qui est en place depuis 25 ans, avec une gauche plus radicale, fera mieux que ce qu'ils ont fait depuis 25 ans.
Sauf que vous êtes bousculé sur votre droite, Rachida Dati, ou peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, que votre regard sur la candidate Sarah Knafo, candidate qui dit qu'elle n'est pas de reconquête, mais candidate de tous les Parisiens, on va l'écouter.
jamais je ne ferai perdre la droite. Donc on verra quels seront les scénarios au second tour. Moi, j'espère que je serai en position de dire, arrivée première, lors du premier tour, que je tends la main à tous les autres. Rappelez-vous que tout est possible. On a beaucoup parlé de Zoran Mamdani ces derniers jours. Il était à 3% l'an dernier. Il est aujourd'hui maire de New York.
Sarah Knafo, proche d'Éric Zemmour, qui dit qu'elle ne fera jamais perdre la droite. Elle s'imagine un parcours à la Mamdani, c'est-à-dire capable de partir très bas et d'arriver jusqu'à la victoire. Vous lui répondez quoi ?
Moi, je dis simplement aujourd'hui, je parle à tous les Parisiens. Moi, j'ai, vous savez, la politique, c'est une incarnation, c'est un projet, c'est une équipe et une dynamique. Moi, je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, ça fait 25 ans que vous attendez. L'alternance est possible. Si vous croyez en moi, en mon projet, oui, oui, on me dit, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, je redoute le portrait, on me dit clivante, on me dit brutale, on me dit...
Pour l'instant, non, je vous parlais plutôt du portrait de Sarah Knafo.
Non, mais attendez, Madame Ben Saïd. Mais non, mais vous me ramenez à ce que vous voulez.
Oui,
je vous réponds. Je vous réponds, laissez-moi faire un raisonnement. Enfin, sauf si c'est un QCM. Dans ce cas-là, oui, non, au revoir, merci madame, et au revoir.
On a une heure.
Non, justement.
Et on a un portrait qui arrive.
Je vous dis simplement, oui, il y a des gens qui m'aiment bien, qui ne m'aiment pas. Je dis aux Parisiens et aux Parisiennes, faites-moi confiance, faites-moi confiance. La politique, c'est brutal, bien sûr. La politique, c'est clivant, bien sûr. Bien sûr que je suis toujours en mode on, mais je crois à mes combats. J'ai agi, j'ai des résultats, j'ai un bilan, j'ai une expérience, j'ai l'énergie. Je m'adresse aux Parisiennes et aux Parisiens. La question que vous posez, est-ce que vous la posez à M. Grégoire, qui s'est allié aux communistes,
toutes
aux
les écologistes, questions seront posées. Là, c'est une heure
et les filles. Je vous le dis, moi, je m'adresse aux Parisiennes et aux Parisiens. Si vous voulez me ramener en disant, est-ce que vous alliez à l'extrême droite et autres, la seule réponse que je peux vous donner, relisez ma vie personnelle et ma vie professionnelle et mes convictions, les idées, les combats que j'ai pu mener et porter.
Voilà. Françoise Ressoz.
Question sur le style de campagne. Sarah Knafo, qui quand même est en progression dans les sondages, fait une campagne sur Paris, ville heureuse. Au fond, une campagne très positive. Est-ce qu'elle n'a pas choisi le bon créneau ? Est-ce que au fond, ce n'est pas ça que les Parisiens attendent, comme d'ailleurs les électeurs français ? C'est un peu d'optimisme dans cette ville un peu sinistrée.
Moi, j'ai toujours été... Enfin, on m'a toujours dit non à tout. Je suis là.
Donc, vous êtes combattante,
je crois,
mais
oui,
elle fait la corde, on peut y arriver, on peut être heureux.
D'accord. Alors, ville heureuse, vous me déclinez comment ? La politique, c'est pas un slogan. L'action politique, c'est pas un slogan. Donc, déclinez-moi ce qui est une ville heureuse. Moi, je sais ce que je propose aux Parisiens. Je leur ai dit, vous voulez avoir une ville propre, vous l'aurez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous voulez une ville sécurisée, je vous la porterai, avec une police municipale.
C'est votre expérience de maire du 7e
une expérience de maire du 7e, de conseillère de Paris. Vous savez, vous l'avez vu, je vais partout, je parle avec tout le monde, je décèle toutes les difficultés, j'ai une solution, j'ai des propositions, j'ai expérimenté. Sur la propreté, je l'ai expérimenté. Sur la sécurité, je l'ai expérimenté. Sur la vision que j'ai de la sécurité et du régalien, je l'ai expérimenté. La réduction des inégalités, je l'ai expérimenté. Quand je vais dans le 18e, et j'y vais fréquemment, pas uniquement en campagne, je vous invite à aller boulevard Ney, avenue Max Dormoy, plus une femme sur les trottoirs, plus une femme dans les commerces, et c'est assumé. Est-ce qu'on s'accommode d'avoir des zones de non-droit
dans Paris ? En même temps, vous avez une drôle de campagne, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de conférence de presse, vous ne voyez pas les journalistes qui essayent de vous approcher. Pourquoi ?
Vous avez raison. Parce que je veux vous dire... En 2020, je suis partie à 8% dans les sondages, je suis arrivée pratiquement à égalité, en vent contraire. Ma famille politique ne m'avait pas soutenue, les maires d'arrondissement s'étaient opposés à moi, et j'ai fait le meilleur score. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce que la presse, enfin moi, j'ai des papiers de presse, de bout en bout, c'est négatif. Je n'ai que des qualificatifs négatifs. Au bout d'un moment, ça va, j'ai pas envie de perdre ni mon temps, ni mon énergie là-dedans.
Mais ils existent, non, voilà.
Oui,
ils existent quelque chose.
Mais est-ce que... Non, mais... Est-ce que j'ai le droit de leur parler ou pas ? J'ai le droit encore, non ?
Est-ce que vous ferez un débat ? Est-ce que vous ferez un débat avec vos opposants ?
J'ai le droit. S'il y a des... Moi, ils peuvent me suivre, il y a un calendrier. Mais si je n'ai pas envie de leur parler, je ne leur parle pas. Je parle aux Parisiens, je préfère.
Est-ce qu'il est exact,
ils le rendent bien.
Rachida Dati, est-ce qu'il est exact que vous ne souhaitez pas faire de débat avec aucun de vos opposants
d'ici
au 15 mars ?
Je ne veux pas faire de débat de premier tour, ça n'a pas de sens. Je parle aux Parisiens. Moi, je veux mettre tout mon temps...
Nous, on est prêts à vous accueillir.
Oui, si vous voulez. Et moi, je suis prête à débattre avec les Parisiens. Je mets tout mon temps utile et mon énergie à parler avec les Parisiens. C'est non-stop. Je fais du porte-à-porte. Je reçois les collectifs, les associations. C'est non-stop pour moi. Mon enjeu, il est là. C'est de convaincre les Parisiens de me faire confiance avec un projet clair, avec une équipe claire et expérimentée,
un débat
avec une méthode claire, avec une méthode très clair. Voilà.
Moi, je vous invite.
Je vais réorienter les priorités. Ça sera la sécurité, la propreté, la mobilité apaisée, le cadre de vie, le logement, la famille, on pourra en parler. Une gestion saine de l'argent public. Budget de 10 milliards, 12 milliards de dettes. Voilà où on en est. Moi, je rendrai compte. Je serai une maire de proximité parce que moi, d'abord, je parle à tout le monde et c'est dans mon ADN.
Rachida Dati, voilà. Est-ce que vous voulez parler à tout le monde ? Est-ce que vous voulez parler à la droite, à Pierre-Yves Bournazel, par exemple, puisque lui, il fait 15-16% dans les sondages, et qu'aujourd'hui, ces voix-là, elles n'iront pas chez vous?
Moi, je veux vous dire, je dis aux Parisiens, ne vous trompez pas de combat. Vous voulez l'alternance, votez utile. Voilà. Votez pour l'alternance à Paris. C'est ça, ça changera. Si vous voulez que ça change à Paris, votez pour moi dès le premier tour. Mais moi, il faudra interroger Édouard Philippe, qui veut rassembler pour 2027 la droite et le centre.
Là, il pourquoi va vous faire perdre.
Bah, bien sûr. Pourquoi il met un candidat pour faire gagner la gauche? Leur seul enjeu, leur objectif,
je pense qu'il est,
je vous l'ai dit,
ennuyé par vos ennuis judiciaires. Et non, ça, je pense que ça pèse quand même dans la campagne.
Attendez, moi, vous savez, j'ai l'affaire Renault. Je m'en exprime, on en a parlé avant.
C'est le sujet... Attendez, est-ce que je peux poser le contexte? Rachida Dati, c'est très important. Je vais essayer de mettre des mots très factuels et vous allez pouvoir boire une gorgée d'eau. C'est un sujet sérieux. À partir du 16 septembre 2026, vous serez jugé pour corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Et on peut imaginer une décision vers décembre et deux scénarios, la relaxe ou la condamnation. Toute la question, c'est qu'allez-vous faire en cas de condamnation si vous êtes à la mairie de Paris?
Alors, je vais vous dire d'abord, les épreuves et les combats, j'en ai eu toute ma vie, depuis ma naissance, et ça continue. Donc, je ne suis effrayée par rien. Chaque combat a son temps. Quand on dit corruption, ça n'est pas de l'argent public. Madame Hidalgo, les élus de Paris sont mis en cause, et il y a une enquête au Parquet National Financier pour de l'utilisation de l'argent public à des fins privées et personnelles. C'est une réalité. C'est de l'argent privé. Il s'agit d'un contrat d'avocat que j'ai eu pour Renault-Nissan pour défendre leurs intérêts et les développer.
Ça, c'est le fond.
C'est très important. Mais on peut faire un QCM encore, là. Oui, non. Voilà. Non, mais c'est juste agaçant. Pour les autres, vous donnez le temps. Pour moi, vous me coupez quand ça vous dérange.
Non, c'est juste que quand vous dites la corruption,
voilà, je ne suis pas énervée depuis le début de l'émission.
Pas le but.
Me poussez pas dans le binaire. Donc voilà, je vous explique.
Non, mais d'inégalité.
Justement, écoutez, la corruption, j'ai pas tapé dans la caisse. Hein. C'est un contrat avec de l'argent privé. C'est un litige privé. Voilà. C'est de savoir, est-ce que j'avais le droit de défendre une entreprise en étant député européen? Il est là, je ne sais pas d'avoir piqué dans la caisse comme font les élus.
Marine Le Pen, monsieur, elle est inéligible, elle n'a pas piqué dans la caisse.
Elle est détournement de fonds publics. Je ne suis pas là-dessus.
Elle n'a pas mis dans sa poche.
Non, mais c'est détournement de fonds publics.
Mais ça, c'est le fond, c'est la justice qui doit trancher. Notre sujet n'est pas le fond.
Je connais un peu la procédure.
Absolument.
Donc voilà, donc faut pas me la faire à l'envers. Donc ça, c'est une réalité. Monsieur Édouard Philippe, s'il est gêné par ça, il lui est lui-même mis en cause par le parquet financier sur du favoritisme, prise illégale d'intérêt. Donc peut-être que lui, ça va peut-être aussi poser problème pour la présidentielle. Donc il faut arrêter. On juge toujours les autres, il faut se regarder un peu. Voilà.
Si vous étiez forcé de partir...
Mais non, mais moi, on est en septembre 26...
Vous êtes présumée innocente à l'heure où nous
parlons. Merci madame, c'est bien.
Mais est-ce que vous ne devez pas... mais vous êtes candidate à la mairie de Paris.
Oui.
Il y a cette incertitude.
Oui, il n'y a pas d'incertitude. Il y a une seule certitude, je le dis aux Parisiens. Faites-moi confiance, ça va le faire. Vous voulez l'alternance et le changement, votez pour moi dès le premier tour. Ceux qui veulent me faire perdre, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts. Ce n'est pas l'histoire de la justice. Monsieur Philippe ou monsieur Attal, ils ont d'autres intérêts et ils ont d'autres calendriers. Je dis simplement parce que la politique, c'est grave et c'est sérieux. La mairie de Paris, comme la France, c'est important. Arrêtons ces petites tactiques et ces petites manips. Parce que de pouvoir... Moi, je veux que monsieur Philippe puisse s'expliquer en disant pourquoi il veut faire gagner la gauche à Paris quand lui voudra rassembler la droite et le centre pour 2027.
Voilà. Vos propositions? Vous dites, vous voulez l'alternance, j'ai des propositions, je peux rendre la ville plus heureuse. Alors, vous avez parlé déjà de la sécurité.
Non, mais il faut réorienter les priorités. Quelles sont les priorités, les attentes des Parisiens? C'est un, que la ville soit propre. 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, il n'y a pas de coordination sur la propreté. Je réorganiserai ça. Deuxièmement, ils veulent de la sécurité. Propreté et sécurité, ça va ensemble.
Et les familles?
Oui, maintenant, je vais y venir. C'est la sécurité.
Armement.
Pourquoi?
De la police municipale.
C'est armement de la police municipale. Ça sera une police municipale armée, formée, équipée, mieux payée. Et une autre police de la tranquillité. Celle qui, effectivement, dans des squares ou dans des rues un peu, moi on m'a dit des rues piétonnisées qui sont un peu désertées, et donc, et le doublement du nombre de caméras de vidéoprotection. Une mobilité apaisée. C'est la seule ville de France qui n'a pas de plan de circulation. On ferme une rue sans étude d'impact, on met des pistes cyclables pour y mettre après des dos d'âne. Donc c'est le chaos. Une mobilité apaisée où chacun trouve sa place.
On ne peut pas faire tout
le budget. Et le budget, 12 milliards de dettes, 10 milliards de budget. Quand vous avez 10 milliards, vous pouvez gérer une ville de 2 millions d'habitants. Ça, c'est... Et le logement. Et le logement, et c'est en lien avec la famille. Aujourd'hui, à Paris, comme d'ailleurs au niveau national, la gauche a cassé la politique familiale en cassant ce principe d'universalité. Et donc, les familles sont laissées à l'abandon. Et donc, moi, je souhaite une politique familiale à Paris pour ceux qui veulent avoir un enfant ou ceux qui ont déjà des enfants.
Et c'est-à-dire quoi ? Aide dès le premier enfant ?
Quand vous voulez avoir un enfant, ou quand vous êtes enceinte, ou quand vous voulez adopter ou accueillir un enfant, même un enfant placé chez quelqu'un, par exemple, moi j'ai des grands-parents qui élèvent des enfants, c'est dès la naissance, c'est la place en crèche. Et donc, c'est le mode de garde. Aujourd'hui, à Paris, 20 à 50% des places en crèche ne sont pas pourvues. Pourquoi ? Parce qu'il manque les assistantes maternelles. Pourquoi ? Parce que quand vous demandez à une assistante maternelle d'être à 7h du matin à Paris, et que vous habitez au fin fond de la Seine-et-Marne, c'est très compliqué. Et donc, moi, j'adapterai ma politique de logement avec la prime au travail. Ça sera la préférence pour le travail. J'assume que le parc social sera en priorité pour les gens qui travaillent à Paris et pour les Parisiens. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, quand vous voulez avoir un premier enfant ou votre famille s'agrandit, souvent vous déménagez. Et donc, j'instaurerai des prêts à taux zéro pour aider ce déménagement et cette nouvelle installation. Ça, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, quand vous avez un enfant, parce que vous savez, une famille, ça n'est pas un foyer fiscal, ça n'est pas seulement ça, c'est élever des enfants. Et donc la mesure importante, c'est que quand vous avez un enfant, vous êtes confronté à des difficultés, ou pas d'ailleurs, tout au long de la vie. Aujourd'hui, par exemple, la PMI, Protection Maternelle et Infantile, et les réseaux d'aide à la parentalité, qui sont un joyau français. Je suis une enfant de la PMI. La PMI, aujourd'hui, s'occupe des enfants où on suit les enfants de 0 à 6 ans. Je ferai l'expérimentation. J'étendrai le périmètre de 0 jusqu'à la fin du collège. Je vais simplifier toutes les procédures administratives pour aider les parents, trouver l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la psychomotricienne, le psychologue, le psychiatre. Aujourd'hui, demander à un parent... qui est confronté à la maison départementale du handicap. Je rends un hommage immense aux agents de cette maison départementale. Je simplifierai toutes les procédures et j'imposerai un délai pour notifier aux parents justement les décisions. J'accompagnerai les parents de zéro jusqu'à la fin du collège.
On ne peut pas faire tout.
Sur le logement social, votre idée de réserver au fond les logements sociaux en priorité aux Parisiens, aux puéricultrices, mais aussi, je pense, aux infirmières, à ceux qui travaillent, ceux qui sont indispensables, c'est une très belle idée qui a d'ailleurs été mise à l'étude. Et on s'aperçoit que c'est très difficile, d'abord parce qu'il faut virer ceux qui sont dans les logements sociaux. C'est pas si difficile que ça.
Non, je vais vous expliquer.
Et deuxièmement, il faut revoir intégralement la façon dont on rétablit les logements sociaux, parce que là, il y a plein de critères, il y a plein d'acteurs, et c'est très, très, très opaque. Donc, concrètement, comment vous faites ?
Concrètement, aujourd'hui, la politique du logement social à Paris, nous sommes au-delà des 25%. Donc, on est au-delà du seuil légal. Est-ce que les Français...
Globalement.
Est-ce que les Parisiens sont contents ? Non. Est-ce qu'ils sont tous logés ? Non. Aujourd'hui, il faut revoir le parc social. Je suis une enfant du logement social. Et aujourd'hui, le parc social est devenu un ghetto. J'ai connu et le logement social et le ghetto. Une ville avec plus de 40% de logements sociaux, ça ne fonctionne pas. Il faut de la mixité. La mixité sociale, c'est pas la misère plus la difficulté. Parce que le ghetto que vous avez dans votre parc social, vous le retrouvez dans les écoles. Je vous donne un critère. Aujourd'hui, la fuite des enfants de l'école publique sur le privé, nous sommes au-dessus du taux national. Et ça n'est pas un choix pour certains, c'est une contrainte.
Parce que sur la
politique de logement social, il faut rechanger la composition sociale, la politique de peuplement. Bon. J'assume de dire que désormais, dans le parc social, il y aura des gens qui travaillent. Aujourd'hui, entendu le programme de M. Béliard et M. Brossa, ils disent les gens sans papier, les réfugiés seront prioritaires sur le parc social.
On ne va pas faire le programme de la gauche.
Vous demandez la mesure, après vous dites, on ne va pas faire
le programme. Mais après, vous allez nous dire, l'émission est déjà terminée. On vient de faire beaucoup de programmes.
Donc, le parc social, je le redis, pour les gens qui travaillent à Paris et pour les Parisiens, je changerai les critères d'éligibilité.
Allez, on va passer à votre portrait. Qui êtes-vous, Rachida Dati ?
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
C'est Brigitte Boucher qui a fouillé votre biographie et les archives. Brigitte.
Je ne vais pas retracer votre vie, ce serait trop long, hein, Rachida Dati, mais quand même dire que vous êtes le fruit d'une alliance algéro-marocaine, passer votre enfance à Chalon-sur-Saône. Dire également que vous êtes la deuxième d'une fratrie de 11 enfants et que vous êtes magistrate, un pur produit de la méritocratie républicaine. Vous avez été élue en 2008 maire du 7e arrondissement, réélue en 2014, tête de liste LR pour la mairie de Paris en 2020 et 2026. Donc, alors votre caractéristique, hein, parce que c'est quand même ça qui... C'est un tempérament de feu, une audace, un sens de la répartie et de la punchline. Clivante, brutale, c'est vous qui le dites. Vous maniez le SMS comme nul autre. Salut le facho lorsque vous écrivez à Brice Hortefeux ou je vais transformer ton chien en kebab à Gabriel Attal quand il menace de s'en prendre au budget de la culture. En 2017, voilà ce que vous disiez d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron.
En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite.
Des traîtres, voilà, de gauche,
des traîtres de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi.
Des traîtres ou des traîtres?
Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite.
C'était en 2021, bien sûr. Voilà ce que vous disiez donc du mouvement d'Emmanuel Macron. Rachida Dati, tous les coups sont permis en politique?
Non. Il y a des coups qui sont permis, d'autres moins. Mais quand on
vous
met
avez
un
des
coup,
regrets?
Quand on met un coup, je le rends. Bon, voilà, c'est tout. Mais c'est pas... Non, mais 2022, l'élection s'est jouée différemment sur un autre terrain, et vous avez bien vu. L'Assemblée est plus fracturée, elle est plus divisée. Les LR sont aujourd'hui au gouvernement, il y a des gens qui sont socialistes sur leur origine politique. Donc voilà, et c'est vrai qu'à l'époque, rappelez-vous, quand ceux qui étaient au LR avec nous, nous ont quittés, et nous ont quittés, pas comme, j'allais dire, comme une ouverture, comme avait pu le faire en son temps Nicolas Sarkozy, en disant j'ai un programme de droite, et j'ai été élu là-dessus, mais je fais une ouverture. Et donc, on n'était pas dans l'ouverture. Là, aujourd'hui, c'est ce que disait, voilà, on est obligé de trouver un compromis politique, parce que l'Assemblée, qui est la traduction de la France telle qu'elle est, elle est très divisée et on n'a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée aujourd'hui. C'est ce qui traduit et ce gouvernement et le Parlement tel qu'il est fait. D'ailleurs, c'est toutes les difficultés que nous avons à trouver des compromis.
Mais donc, on peut retourner sa veste en politique ?
Non. Alors, trouver une seule mesure sur laquelle je me suis retournée, y compris dans ma famille politique. Moi, j'ai des désaccords sur certains aspects, mais je suis légitimiste. Voilà. Je suis une femme de droite, je suis légitimiste. Quand il y a une position majoritaire qui a été prise, je m'y soumets, et voilà.
18 ans que vous sillonnez la capitale, et si votre mentor n'était pas Nicolas Sarkozy, mais Jacques Chirac, est-ce que vous voyez Paris comme un tremplin ?
Pour tremplin pour ?
Pour la présidentielle.
Non, mais chaque jour suffit, c'est à peine. Moi, je mets tout pour Paris. Je mets tout pour Paris.
Pourquoi
j'aime
Paris ?
Parce que je veux vous dire, le mandat de maire, moi je suis maire du 7e arrondissement, j'adore être maire. J'adore mon arrondissement, j'adore mes habitants, je vais partout. Et même, je vais au-delà, parce que moi, les Parisiens m'écrivent, je résous des problèmes de scolarité, d'inscription conservatoire, d'aide les uns et les autres à trouver justement un orthophoniste, un psychomotricien ou un psychiatre pour les enfants. J'adore cette proximité. Et vous avez la différence avec une présidentielle ou une municipale et une ville comme Paris, c'est que ce que vous dites, vous le faites et vous pouvez le voir. Et si vous ne le faites pas, le Parisien vient vous attraper très vite par la peau du dos. Quand vous êtes président, vous donnez des instructions, y compris à vos ministres, vous avez des ministres qui sont plus ou moins engagés. Vous avez plus ou moins d'autorité sous votre administration. Donc le fil est plus long et le retour peut être plus violent, mais ça peut se déliter plus dans la durée. Là, l'action est immédiate, le retour est immédiat. Et donc, si vous voulez changer une ville comme Paris, moi j'en ai l'énergie, j'en ai la compétence, j'ai l'équipe pour ça, et je ne lâcherai rien.
Vous ne serez jamais candidate à la présidentielle?
Je suis candidate à Paris.
Donc, plus tard.
Rachida Dati, on vous a demandé de venir avec une carte blanche. Une minute pour nous dire ce qui vous tient à cœur. Au-delà de la mairie de Paris, je crois qu'on vient de le comprendre.
Non, quand vous m'avez dit effectivement de trouver un thème, il y a plein de choses. Moi, ma vie politique, mon engagement, il s'est fondé sur ma vie personnelle. Des violences qu'on a pu voir, des agressions, des brutalités, justement, on n'échappe pas à son enfance, évidemment. Mais je crois à la République. Et moi, de mon expérience personnelle et de magistrat, ce qui m'a beaucoup frappé depuis toujours, dont je ne me suis jamais départie, c'est le sort des enfants placés. Et lorsque j'étais enfant dans cette cité ouvrière où j'habitais, il y avait des enfants qui étaient placés dans des familles d'accueil. Et je voyais leurs difficultés à trouver leur marque, à trouver des fondations qui les projettent dans l'avenir, finalement à trouver une stabilité. Et ça m'a toujours... j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai des enfants en tête. Et lorsque je suis devenue magistrat, quand je suis devenue auditeur de justice, j'ai commencé au tribunal de grande instance de Bobigny. C'est le plus grand tribunal de France pour les enfants, pour les mineurs. Et l'essentiel du contentieux, c'est pas du tout la délinquance des mineurs, c'est finalement la protection de l'enfance, la maltraitance des enfants. Avec Jean-Pierre Rosenzweig, auquel je veux rendre un hommage particulier, avec lequel j'ai travaillé, et j'ai été... il me disait toujours, oh là là, vous apportez de l'air frais, de l'oxygène et de l'énergie là-dedans, tribunal, oui. Président du tribunal pour enfants. Et on a mis plein de dispositifs innovants pour pouvoir sauver des enfants. Et lorsque j'étais magistrat, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer des internats d'excellence, des internats pas très loin, urbains, de placer des enfants dans des structures associatives ou culturelles. J'ai diversifié les structures de placement, mais avec des vrais suivis. Et je continue à le faire. Là, on a un scandale de la protection de l'enfance à Paris. Si je suis maire de Paris demain, et là, j'ai la main, vous voyez, ça revient à ça.
On y revient.
Je mettrai une politique centralisée, très centralisée, de protection de l'enfance, avec, aujourd'hui, on ferme les yeux. C'est une lâcheté coupable. Je vais vous dire, vous savez, on a mis des procédures de signalement. Moi, je l'ai vu. En fait, les procédures de signalement, c'est un moyen de vous couvrir. J'ai signalé, je suis couvert. Mais on n'a pas protégé l'enfant. Moi, je vous mettrai une politique de protection des enfants et pas une protection pour se couvrir soi-même. Un peu le sujet qui me marque depuis toujours et sur lequel je travaille depuis toujours, que je sois mère, que je sois engagée, que je sois militante, que je sois citoyenne ou que je sois mère de famille.
Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. On parle de 2027 avec les questions de Françoise Fressoz.
Oui, l'alliance entre la droite et l'extrême droite est-elle devenue inéluctable? Alors, on sent quand même qu'il y a une pression de la base. Et puis, on voit aussi l'évolution de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, Rachida Dati, moi je vous ai connu, comme les Français d'ailleurs, en 2007, vous étiez aux côtés de Xavier Bertrand, le porte-parole de campagne de Nicolas Sarkozy, et il était alors l'homme fort de la droite, celui qui voulait reconquérir les électeurs partis du côté du Front National. Il y est en partie réussi. Mais aujourd'hui, la droite est faible et on a l'impression qu'au fond, Nicolas Sarkozy se dit, si la droite se ralliait à l'extrême droite, ce serait pas plus mal. Alors, il fait des éloges à Jordan Bardella, il estime qu'il lui fait penser au RPR du temps de Jacques Chirac. Vous comprenez sa position, vous en avez parlé avec lui?
Très franchement, j'en ai pas parlé avec lui. Moi, je ne comprends pas cette union des droites, ce concept, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une union d'appareils? Est-ce que c'est une union d'idéologie? Est-ce que c'est une union, finalement, de personnes qui veulent sauver des mandats et
mais
des sièges?
Au fond...
Est-ce que c'est une union, pardon François Fressoz, est-ce que c'est une union pour gagner coûte que coûte? C'est devenu ça. D'ailleurs, je vais vous dire, justement, vous disiez que vous me connaissiez dans la vie politique depuis longtemps. Moi, je crois à la gauche et je crois à la droite. Moi, j'ai eu des débats avec François Hollande, Laurent Fabius, Arnaud Montebourg, Robert Badinter sur la justice. J'ai eu des débats de fond avec eux. Je crois à ce clivage gauche-droite. Et la gauche a beaucoup perdu et s'est beaucoup affaiblie parce qu'elle a fait une union des gauches. C'est la traduction, son affaiblissement... C'est la traduction d'une union des gauches. C'est-à-dire qu'on s'unit uniquement pour ne pas perdre le pouvoir ou des sièges ou des mandats. Et en fait, on s'unit avec tout et n'importe quoi.
Et parallèlement, l'extrême droite s'est en partie dédiabolisée sous le règne de Marine Le Pen. Mais on voit quand même, aux dernières élections législatives, des candidats qui sont xénophobes, racistes. Ça vous gêne, ça?
Vous connaissez ma vie, quand même.
Bah,
on m'a même reproché d'avoir appelé ma fille du prénom de maman. On avait dit qu'il fallait que je démissionne du ministère de la Justice, que j'étais pas digne de la République.
Zora,
en disant que c'était indigne. Et voilà, donc moi je combats quand on dit brutalité ou de l'agressivité, Madame Fressoz. La vie tout court n'est pas facile, et moi je suis très privilégiée. C'est pour ça que je n'ai jamais enlevé l'échelle derrière moi. Je passe mon temps à essayer de pousser d'autres.
Donc
pourquoi je vous dis ça?
Pourquoi?
Pour être clair, on défend des valeurs et des convictions. C'est ce qui a fait... Vous ne trouverez pas chez moi une conviction que j'ai défendue quand j'avais l'âge de 10 ans, où je voulais d'autonomie, l'émancipation de la liberté, la lutte contre tous les obscurantismes et toutes ces formes de repli sur soi. C'est mon combat. Une liberté, une émancipation, une élévation. Voilà ce que...
Question clé, mon combat. Justement. Voilà. Est-ce qu'il est encore possible pour une représentante de la droite ou du centre, on ne sait plus trop, d'incarner ou de reconquérir l'électorat populaire? Et si oui, comment?
Madame Fressoz, oui. Et je vais vous dire, sur les sondages de popularité, j'existe encore.
Mais c'est quoi? C'est l'incarnation, c'est quoi?
Mais comment?
Attends. Vous vous rappelez, moi, si je vous sortais les unes de l'époque, on avait dit sa dernière croisade, elle est morte, elle est finie, elle va tout perdre et tout. Moi, les gens, les Français croient à quoi ? Croient à la politique, à la politique qui change leur vie. Effectivement, il faut une incarnation. L'incarnation, c'est la traduction des convictions et des valeurs. C'est la Ve République, une incarnation des valeurs, des idées, un projet, une équipe. Il ne faut pas se tromper, pas de confusion. Pas de compromission. Et je vous le redis, la gauche s'est affaiblie par ses compromissions.
Rachida Dati.
La droite a toujours eu un cordon sanitaire entre elle et l'extrême droite.
Jusqu'à présent.
Allez, Bertrand Delanoë, vous connaissez la séquence vrai-faux, Rachida Dati. Attention, ça va très vite, mais vous êtes rapide. Bertrand Delanoë a été un bon maire de Paris, vrai ou faux ?
On dit toujours que c'est mieux avant. On a eu des combats, il avait une grande qualité, il consultait les maires d'arrondissement et les élus.
Officiellement, vous êtes toujours suspendu par le parti Les Républicains, vrai ou faux ?
Je sais pas, en fait.
Jordan Bardella fait un peu penser au RPR, au temps de Jacques Chirac, vrai ou faux ?
J'ai beaucoup de respect pour Jacques Chirac et sa mémoire.
Pour garder le club à Paris, vous seriez prête à vendre le Parc des Princes au PSG, vrai ou faux ?
Le PSG doit rester à Paris. On verra s'il faut le vendre ou pas. J'en sais rien. PSG doit rester à Paris.
Vous seriez prête à vous baigner dans la Seine, vrai ou faux ?
Non.
2027, deuxième tour. Deuxième tour, 2027, Mélenchon-Bardella. Attention, c'est de la politique fiction. Vous votez Mélenchon ?
Non, vrai ou faux ? Non, je dis rien. Arrêtez les conneries.
Allez, Rachida Dati, vous avez été l'invité de Questions Politiques ce dimanche. Merci à toute l'équipe.